Bonjour et bienvenue sur les podcasts du Démanipulateur. Les podcasts du Démanipulateur sont l'illustration sonore de son auteur, Nathalie Risen, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques, et également créatrice et éditrice de projets destinés à dénoncer les cas de violence, de manipulation et de harcèlement dans le couple, la famille, le travail et l'éducation. La relation toxique est une relation de dominant à dominé, de sujet à objet, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. Nathalie tient à préciser que les victimes de relations toxiques restent majoritairement des femmes, compte tenu de l'historicité même du féminin dans notre société. Pourtant, de plus en plus d'hommes consultent aujourd'hui pour témoigner de leurs souffrances et mettre en lumière les violences subies. Les relations toxiques s'installent de manière insidieuse et se traduisent par des agressions quotidiennes et répétées. La relation toxique peut débuter par un reproche, une remarque, une phrase anodine en sous-jacent d'une tentative de manipulation, de dévalorisation, d'humiliation et de prise de pouvoir. Dans cet épisode, l'emprise économique dans un couple. L'emprise économique est un phénomène complexe qui peut s'installer sournoisement et parfois même involontairement dans une relation de couple. On parle de violence financière quand il y a un abus de pouvoir financier dans un couple qui nuit ou limite le bien-être de l'autre. Le réel danger est de se trouver dans une position de dépendance économique face à son partenaire et que cela affecte notre capacité à prendre les meilleures décisions pour soi. La violence financière entraîne donc une emprise économique qui pourrait forcer une personne à rester dans la relation. Il existe quatre contextes plus fréquents d'emprise économique ou de violence financière dans un couple. Un écart important dans les revenus. Un partenaire gagne significativement plus que son conjoint et se permet donc de prendre les décisions concernant leur train de vie commun. La personne qui gagne un plus faible revenu sent qu'elle a moins le droit de s'exprimer, ce qui entraîne une relation de pouvoir déséquilibrée. On peut contribuer aux dépenses du ménage proportionnellement à ses ressources, mais le pouvoir décisionnel, lui, devrait toujours être réparti également entre les conjoints. Dépendance financière envers son conjoint. Une femme cesse de travailler pour s'occuper des enfants à la maison et devient donc entièrement dépendante du revenu de son conjoint pour payer ses dépenses ainsi que celles du foyer. Pendant ce temps, elle cesse également de contribuer à son régime de retraite, qui sera donc plus faible à terme. Ceci n'est qu'un exemple parmi plusieurs dans lequel l'un des partenaires se trouve dans une situation de précarité financière. L'important est d'en discuter avec son conjoint pour prévoir les mécanismes de compensation appropriés. Centraliser le contrôle des finances. Même si l'on a peu d'intérêt pour les finances ou carrément pas le temps de s'en préoccuper, il est essentiel que la gestion des dépenses du foyer soit un sujet de discussion commun et plutôt fréquent. Cela évite de se retrouver avec plusieurs comptes en retard, ou à l'inverse, de subir un contrôle quasi obsessif des dépenses de son partenaire. Il n'est pas normal de devoir fournir une preuve d'achat pour chaque centime que l'on dépense de son propre salaire. Des objectifs financiers opposés. Chaque partenaire peut avoir ses propres objectifs financiers, mais il est nécessaire d'avoir une discussion honnête avec eux. Par exemple, si l'un des conjoints investit une part importante de ses revenus en prévision de la retraite, alors que l'autre conjoint n'y met que quelques francs s'il en reste à la fin de l'année, le couple se retrouvera nécessairement en position délicate. Les partenaires pourraient se sentir frustrés dans la relation s'ils n'abordent pas le sujet pour tenter de trouver un compromis acceptable pour les deux. Par ailleurs, il existe aussi des contextes où l'emprise économique dans le couple est si grave qu'il est nécessaire d'aller chercher une aide externe et immédiate pour s'en sortir. À titre d'exemple, le vol d'argent, l'usurpation de l'identité du conjoint, le contrôle des choix professionnels du partenaire ou carrément l'utilisation de l'argent pour forcer la victime à rester dans une relation. Éviter de se retrouver dans une prison. Il existe de nombreux exemples de signaux à reconnaître pour éviter de se retrouver dans une prison économique que l'on aurait laissé se construire tranquillement dans son couple. En voici quelques exemples. 1. Ne jamais discuter d'argent avec son partenaire. 2. Ne pas rédiger son testament. 3. Laisser son partenaire emprunter de l'argent sur les biens communs, tels qu'une maison, pour investir sur des projets personnels sur lesquels nous n'avons aucune vision. 4. Ne pas discuter de son plan ou de ses objectifs de retraite. 5. Ne pas évaluer l'écart des revenus dans le partage des dépenses. Comment se protéger concrètement ? 1. Avoir son compte personnel. Le compte joint ne devrait servir qu'à payer les dépenses communes du foyer. Toutefois, le salaire devrait être versé dans son compte personnel, où on transfère ensuite seulement la part nécessaire pour les dépenses communes dans le compte joint. Ainsi, chacun peut contrôler ses propres dépenses, et en cas de séparation, chacun a accès à ses liquidités. 2. Discuter à deux des achats communs. C'est la base. Il faut un certain processus décisionnel commun pour s'entendre sur ce qui sera payé à deux. Il ne s'agit pas de discuter de chaque fruit ou légume qui sera acheté, mais plutôt de s'entendre sur les grands principes. Les restaurants à deux, les dépenses sur les jouets des enfants et les vacances sont-ils payés par le compte joint ? On s'évite bien des surprises lorsqu'on s'entend au préalable. 3. Avoir accès au compte joint et au relevé des dépenses. Il ne s'agit pas de surveiller son partenaire, mais bien de s'assurer qu'en tout temps, on est capable d'accéder au compte joint et au dernier relevé de compte de façon autonome, pour voir toutes les rentrées et sorties d'argent. Il s'agit d'ailleurs d'un bon exercice à faire de temps à autre, pour s'assurer qu'il n'y a aucune anomalie financière dans le compte. 4. Comprendre ce que l'on signe. C'est un principe fondamental. Il est essentiel de prendre le temps de lire et de poser les questions nécessaires pour comprendre les documents qu'on signe. Par exemple, les documents bancaires, un contrat d'achat ou une police d'assurance. Vous ne devriez jamais sentir de pression de votre partenaire pour signer un document sans en prendre connaissance. 5. Être copropriétaire sur les biens communs. Principalement dans le cas de gros achats tels que l'immobilier, il est essentiel que les documents légaux reflètent la réalité. Si vous achetez une maison ou un chalet ensemble, les deux noms devraient figurer sur le prêt hypothécaire. Si vous habitez un logement loué, votre nom devrait figurer sur le bail. Finalement, cet épisode se veut une piste de réflexion sur les dynamiques de pouvoir qui peuvent entraîner l'emprise économique dans un couple. Si vous sentez que vous êtes vulnérable et dans une situation précaire, n'hésitez pas à consulter une ressource professionnelle pour obtenir de l'aide. Dans son ouvrage « Dis maman, raconte-moi mon histoire », violence post-séparation et instrumentalisation de l'enfant, disponible sur payot.ch et amazon.fr. Nathalie nous explique comment elle se tient aux côtés des victimes de relations toxiques pour faire entendre leur détresse. Si vous avez vécu une relation toxique et que vous avez envie de témoigner, contactez le Centre d'aide aux victimes de relations toxiques. www.victimesrelationstoxiques.com